Vendredi 15 mars et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Une journée toute en dentis à vous offrir aujourd'hui pour les 90 prochaines minutes. Journée en dentis, bien sûr, parce qu'en se levant ce matin, on s'en est tous aperçus. Il y a le bruit de l'eau qui coule partout, de la neige qui fond, de la glace qui s'en va. De quoi nourrir énormément d'espoir, l'hiver qui baisse enfin les bras. Journée de désespoir aussi, vu les événements qui sont sur... Comme aux îles de Mars, le 15 mars. Oui. Les îles de Mars qui ont été si fatales à Jules César. Mais il s'est passé plein de choses dans l'histoire, n'est-ce pas, Mathieu?
C'est exact, mon cher François. Le 15 mars, c'est la journée internationale de lutte contre les violences policières. Et c'est aussi la journée internationale des droits des consommateurs. Mais dans l'histoire, si je remonte en 1603, Samuel de Champlain entreprend son premier voyage en mer. Le navigateur portugais Ferdinand Magellan débarque aux Philippines en 1521. J'avais oublié cette date. 15 mars 1713 à Trois-Rivières, il est ordonné aux propriétaires de construire des trottoirs de bois en face des maisons. 1831, l'apparition de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Toujours le 15 mars, en Russie, le tsar Nicolas II abdique en 1917. Le Rwanda, en 1921, est cédé à l'Angleterre par la Belgique. L'Allemagne nazie occupe Prague en 1939, toujours un 15 mars. En 1957, une commission d'enquête fédérale recommande de réduire les pouvoirs de réglementation de Radio-Canada, ce qui permettra la création de réseaux privés de télévision. 15 mars 1963, les États-Unis proposent d'installer un téléphone rouge entre Washington et Moscou pour éviter des conflits accidentels.
Il faut dire qu'on est passé très très près à quelques reprises.
Oui, effectivement. 1972, Francis Ford Coppola, le Godfather, j'avais écrit ça en anglais. En 1982, 15 mars, Fuji lance le premier appareil photographique jetable. Ottawa autorise les Sikhs membres de la GRC à porter le turban en 1990. Et en 2004, les astronomes américains annoncent la découverte de Sedna, le corps céleste le plus éloigné connu du système solaire. Et pour ce qui est des naissances, nous avons Jacques Doyon en 1944. On connaît bien puisque c'est un réalisateur et scénariste français, père de Lou Doyon. Nous avons 1944, pardon, Francis Mickiewicz. Nous avons Diane Juster, ou Diane Justé.
Diane Juster, ouais. En fait.
C'est ça qui arrive
on quand... aura tout essayé.
C'est ça qui arrive quand on écrit à la main parfois. 1946, Marc Bella en 1958, et oui, le décès de Jules César en 44 avant Jésus-Christ.
Poignardé par les sénateurs, dont son propre fils adoptif.
Brutus?
Eh oui, tu quoque fili, aurait-il dit, toi aussi mon fils. On commence immédiatement en abordant la presse et la terrible nouvelle de ce jour. Écoutez, l'horreur et la stupidité ont encore frappé. Cette fois-ci, c'est à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. C'est l'île du Bas. Si vous connaissez un peu la Nouvelle-Zélande, il y a deux îles principales, s'entend. Alors, c'est l'île du Bas. Carnage dans des mosquées en Nouvelle-Zélande. Un extrémiste fait 49 morts. C'est un texte de Chris Foley. Ça nous vient de l'agence France-Presse. Un extrémiste de droite équipé d'armes semi-automatiques a fait un carnage vendredi dans deux mosquées de la localité néo-zélandaise de Christchurch, tuant 49 fidèles et blessant des dizaines d'autres. La première ministre Jacinda Ardern, qui a décrit l'une des journées les plus sombres jamais vécues par cette nation du Pacifique Sud, réputée paisible, elle a immédiatement qualifié les attaques, les pires contre les musulmans dans un pays occidental, de terroristes. L'attentat a suscité une vague de condamnations dans le monde, du pape à la reine Elisabeth II, de Donald Trump au président turc Recep Tayyip Erdogan. L'assaillant a diffusé en direct sur Internet les images de ces attaques où on le voit passer de victime en victime, tirant sur les blessés à bout portant alors qu'elle tente de lui échapper. Un Australien de 28 ans a été arrêté et inculpé de meurtre. Il doit comparaître samedi devant le tribunal du district de Christchurch. Deux autres hommes étaient toujours en garde à vue sans que l'on sache ce qui leur est reproché. Le principal suspect a publié un manifeste raciste sur les réseaux sociaux avant de passer à l'action, où il semble s'inspirer de théories populaires dans les milieux d'extrême droite selon lesquelles les peuples européens seraient remplacés par des populations non européennes immigrées. Le document détaille deux années de radicalisation et de préparatifs avant le passage à l'acte. Il est clair qu'on ne peut que décrire cela comme une attaque terroriste, a déclaré Mme Ardern. Oui. Pour ce que nous en savons, l'attaque semble avoir été bien planifiée. Deux engins explosifs artisanaux ont été découverts dans une voiture et neutralisés, selon la police. À Sydney, le premier ministre australien a décrit le tireur comme un violent extrémiste de droite. Les deux cibles étaient la mosquée Masjid al-Nour dans le centre de la ville où 41 personnes ont péri selon la police, ainsi qu'une seconde mosquée à Linwood dans la banlieue où 7 personnes sont mortes. Une victime a succombé à l'hôpital. Une cinquantaine de blessés touchés par balles ont été hospitalisés. D'après la première ministre, une vingtaine sont dans un état grave. Parmi les morts figureraient des femmes et des enfants. Un Palestinien présent dans l'un des lieux de culte a raconté qu'il avait vu un homme être abattu d'une balle dans la tête. « J'ai entendu 3 coups de feu rapides. » Et après environ 10 secondes, ça a recommencé. Cela devait être une arme automatique. « Personne ne pourrait appuyer sur la gâchette aussi vite », a dit cet homme à l'AFP sous couvert de l'anonymat. Puis les gens commencent à sortir en courant. Certains étaient couverts de sang. « Les images de tireurs sont extrêmement pénibles », a prévenu la police néo-zélandaise. Les autorités ont averti les internautes qu'ils pourraient encourir jusqu'à 10 ans de prison en cas de partage. Outre la vidéo, dont l'AFP a vérifié l'authenticité, mais qu'elle ne publiera pas, des photos liées aux tireurs ont été postées sur les réseaux sociaux montrant des armes semi-automatiques recouvertes des noms de personnages de l'histoire militaire, dont des Européens ayant combattu les forces ottomanes au 15e et 16e siècle. L'attaque a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, pays de 5 millions d'habitants, dont seul 1% s'identifie comme musulman. Le pays ne recense qu'une cinquantaine de meurtres par an et s'enorgueillit d'être un endroit sûr et accueillant. Alors, ça a été la Suède, ça a été Québec et c'est maintenant la Nouvelle-Zélande. Première grève au chemin Montréal, grève inopinée, grève non planifiée, grève illégale aussi, mais grève de robots. Une panne électrique majeure immobilise les robots du CHUM, c'est un texte d'Ariane Lacourcière, publié dans la presse. Une panne électrique survenue tôt hier matin a immobilisé pendant quelques heures les chariots robotisés du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, chargés d'acheminer les fournitures médicales, les plateaux repas, les instruments stériles et la lingerie aux différents étages de l'hôpital. Si les patients n'ont subi aucun inconvénient, assure la porte-parole du CHUM, Lucie Dufresne, une enquête devra être menée afin de déterminer pourquoi les génératrices censées permettre aux robots de fonctionner en cas de panne n'ont pas pris la relève. C'est du moins ce qu'a expliqué Serge Mignot, directeur adjoint des approvisionnements et de la logistique du CHUM, hier lors d'un témoignage devant le Conseil canadien des relations industrielles. M. Mignot était alors appelé à témoigner dans le cadre d'une demande de maintien des services essentiels faite par l'Association des employeurs maritimes auprès du Conseil canadien des relations industrielles. Le Conseil doit déterminer si en cas de grève... Pardon. Oui, c'est donc durant ce témoignage que M. Mignot a fait part de l'incident survenu au CHUM, invité à illustrer en quoi certains imprévus pouvaient perturber la gestion logistique du CHUM, il a expliqué qu'une panne électrique avait justement touché l'établissement de 3h30 à 9h30 hier matin. Les 70 chariots robotisés qui font chaque jour 2500 transports dans tout l'hôpital ont été immobilisés. M. Mignot a expliqué qu'une analyse devait être menée pour comprendre pourquoi les génératrices n'avaient pas fonctionné. Le plan de contingence élaboré conjointement par le CHUM et Veolia a été déclenché par le CHUM afin que les chariots soient déplacés manuellement suivant une priorisation préétablie des flux, exemple les repas, les médicaments, les instruments prioritaires, Il n'y a eu aucun retard dans la distribution des repas, ni aucun report de chirurgie. La qualité et la sécurité des soins aux patients ont été assurés. Soutien pour sa part, Madame Dufresne. Et on recherche toujours le chariot syndicaliste de la bande. Nouvelle inquiétante, celle-là, puisque si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, particulièrement les mouvements pro-vie américains et leurs manifestations près des cliniques d'avortement aux États-Unis, les images sont particulièrement disgracieuses. C'est interdit dans plein de provinces canadiennes, notamment au Québec, de manifester pour eux près des cliniques. Les mouvements demandent la permission de le faire au tribunal, ce que rapporte Vincent Larouche. Des militants anti-avortement veulent manifester près des cliniques. Des militants anti-avortement demandent à la Cour supérieure d'invalider la législation québécoise qui interdit les manifestations dans un périmètre de 50 mètres autour des cliniques d'avortement. La loi avait été adoptée en 2016 pour protéger le libre accès des femmes, mais les militants disent qu'elle brime leur liberté d'expression. Une médecin de famille de Laval, la Dr Roselyne Lebel, ainsi que le groupe anti-avortement Campagne Québec Vie et son vice-président Brian Jenkins ont déposé une requête en ce sens à la Cour supérieure cette semaine. Ils demandent au tribunal de déclarer anticonstitutionnelles les dispositions légales adoptées par Québec en 2016 pour interdire les manifestations dans un périmètre de 50 mètres autour des cliniques qui pratiquent des interruptions de grossesse. Ces dispositions briment leurs droits de réunion pacifique, leur liberté d'expression et leur liberté d'opinion, garantie par les chartes des droits canadiennes et québécoises, prétendent-ils. La place publique doit être ouverte à tous et ceux qui la partagent doivent s'attendre à être exposés à des messages politiques, religieux, commerciaux ou autres avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Créer une zone aseptisée sur la place publique où la liberté d'expression ne peut s'exercer est contraire aux droits fondamentaux reconnus dans une société libre et démocratique, écrit l'avocat du groupe Maître Robert Reynolds dans sa requête déposée au Palais de justice de Montréal. C'est le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette, qui avait fait ajouter ces dispositions à la loi parce que des femmes se disaient harcelées par les manifestants qui se massaient devant les cliniques avec pancartes, dépliants et photos très explicites pour interpeller les femmes. En aucune circonstance devrait-il être permis de mettre quelques barrières, que ce soit physiques ou non physiques, à l'accès à l'avortement, avait martelé le ministre devant les journalistes pour expliquer son initiative. La clinique Morgan Taylor à Montréal avait déjà saisi les tribunaux peu avant et obtenu une injonction qui imposait un périmètre interdit aux manifestants autour de ses bureaux. Campagne Québec Vie s'était engagée à respecter cette injonction qui est toujours en vigueur à ce jour. Alors, pour le gouvernement Trudeau, on le sait, c'était une nouvelle administration pour le Canada et améliorer l'image du Canada sur la scène mondiale était importante et on va savoir qu'ils vont avoir réussi s'ils réussissent à décrocher un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Fanny Lévesque, Joël Denis, Belle Avance avec la collaboration de William Leclerc nous apprennent que le Conseil de sécurité, la campagne au Conseil de sécurité a déjà coûté plus $1 million à Affaires étrangères Canada. Le gouvernement Trudeau a dépensé jusqu'ici un peu plus de $1 million dans sa campagne de séduction visant à permettre au Canada de décrocher un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021-2022, une somme qui va augmenter encore étant donné que le vote aux Nations unies est prévu dans 16 mois. La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, rencontre d'ailleurs aujourd'hui et demain à New York le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi que des ambassadeurs et représentants permanents afin de mettre en valeur les contributions que le Canada apporte à plusieurs domaines de collaboration internationale. La presse a appris que le Canada avait déboursé en date du 20 février 1,07 million en coûts opérationnels pour sa campagne. Le Parti conservateur et le NPD soutiennent que cette dépense est pure perte d'argent, se disant convaincus que les chances du Canada d'obtenir ce siège sont plutôt minces en raison des faux pas du gouvernement de Justin Trudeau sur la scène internationale au cours des derniers mois. Mais l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Marc-André Blanchard, soutient au contraire que la campagne canadienne va bien, même si la concurrence est féroce, ajoutant que si la tendance se maintient, il est fort probable que le Canada sera membre du Conseil de sécurité en 2021. Le Canada se mesure à deux pays européens, l'Irlande et la Norvège, qui convoitent aussi ce siège. Le vote parmi les 192 États membres de l'ONU se tiendra en juin 2020. Dans le passé, le Canada a toujours obtenu un siège non permanent au Conseil de sécurité au moins une fois tous les 10 ans depuis la création de l'ONU, sauf en 2010, quand le Portugal a damé le pion au Canada. Le gouvernement Trudeau souhaite donc réussir là où a échoué l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui avait dépensé $1 million afin de soutenir la candidature du Canada en 2010. On se rappellera que le gouvernement Harper était vis-à-vis de l'ONU d'un froid remarquable et que ses positions pré-israéliennes, effectivement, avaient fait en sorte que la candidature canadienne avait été coulée. Aussi, le premier ministre Harper, un jour d'ouverture de l'ONU, plutôt que d'aller au discours d'ouverture, avait préféré assister à l'ouverture d'un Tim Hortons à New York. Ça vous en dit long.
She's a traveling aboard. She's a traveling.
Tandis que j'attends le mien, mon Traveling Bird, c'était Wallace Bird qui chantait Traveling Bird.
Merci beaucoup, Mathieu. Et sans plus attendre, on aborde encore la scène internationale, cette fois dans les pages du Devoir, pour parler de Donald Trump. Donald qui vient de recevoir une gifle du Congrès ou la Chambre, l'équivalent de la Chambre haute, le Sénat, a entériné une proposition de la Chambre basse pour déclarer que l'urgence sur laquelle se fondait Donald pour financer son mur entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, cette urgence-là n'existe pas. Bon, évidemment, ça n'aura pas de suite, puisque le président va mettre un veto sur ce vote-là. Il faudrait le repasser à 60 aux deux tiers, et ça, ils ne l'ont pas présentement au Sénat. Enfin, on lit le texte pareil. Élodie Cusin, Agence France-Presse à Washington. Le Congrès rejette le financement du mur. Coup dur pour Donald Trump, alors que son propre camp lui a tourné le dos. Le Congrès américain a rejeté jeudi, grâce à la défection de 12 sénateurs républicains, le financement d'urgence du mur que le président entend faire construire à la frontière mexicaine. Défendant l'un des projets les plus emblématiques de sa présidence, M. Trump a juré de bloquer avec un veto la résolution adoptée par les élus. L'édification de ce mur hautement controversé pourra donc se poursuivre. « Veto », a-t-il tweeté juste après le vote. Puis, dans un second tweet, « J'ai hâte d'opposer mon veto à cette résolution d'inspiration démocrate. Reste néanmoins l'humiliation de devoir dégainer son premier veto présidentiel pour sauver sa grande promesse de campagne, malgré une majorité républicaine au Sénat de 53 sièges sur 100. » Le nombre de dissidents républicains a augmenté ces derniers jours, tous opposés à la situation d'urgence nationale décrétée par le président américain afin de contourner le Congrès qui refusait de lui accorder le budget pour le mur. Mine de rien, comme ça fait 150 jours maintenant que le gouvernement Legault est en poste et Isabelle Porter, correspondante à Québec, a lancé une série de 3 articles sur comment la droite réagissait à l'élection et si elle était satisfaite du nouveau gouvernement. Le premier, c'était aujourd'hui. Déception à droite après 150 jours de gouvernement caquiste. Quel bilan dressé des premiers mois du gouvernement de la CAQ? Est-il à l'image de ce que ses partisans espéraient? Le Devoir est allé à la rencontre de sa base d'hier et d'aujourd'hui. Après avoir clignoté à droite pendant des années, la coalition Avenir Québec s'est rapidement installée dans la voie du centre après son arrivée aux commandes de l'État il y a quelques 150 jours. Ses sympathisants de la première heure demeureront-ils à bord? Si tranquillement, pas vite, on est capable de s'en aller plus à droite, ce serait bien. C'est bien beau de donner 50% de notre paye à l'impôt, mais, répond Anthony, enivré d'un doux parfum de cuir d'auto. Le Devoir l'a croisé au Salon international de l'Auto de Québec. Derrière lui, sa fille se mire dans la carrosserie des cylindrées afin de trouver la plus rutilante du centre de foire de Québec. Le résident de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ne cache pas son appui au projet de troisième lien routier entre les deux rives que la CAQ a appuyé sans réserve avant d'être appelé à former le gouvernement. En 2022, il jugera l'équipe de François Legault tout d'abord en fonction du progrès accompli dans ce dossier. À l'autre bout du centre des foires, dans la salle des arcades, Karine agite la poussette de son bébé tout en suivant la voiture de course pilotée par son plus vieux. « Je suis une fille de char. J'aime ça voir les différentes autos », dit-elle. Malgré l'affection qu'elle témoigne pour les jolis bolides, la résidente de Beauport, elle ne tient pas au troisième lien. « Je n'ai pas besoin de traverser le pont, je me débrouille », fait-elle remarquer. Karine ne cache pas ses réticences à l'égard des maternelles 4 ans. « Je trouve que ce n'est pas utile. Ce qui est en place déjà, les CPE, c'est correct », fait-elle valoir. La perspective de voir la CAQ, qui a prôné la réduction de la taille de l'État, investir jusqu'à 700 millions de dollars par année dans ce programme en fait sourire plus d'un, à commencer par les anciens ADQIS. La volonté du gouvernement Legault de garder le privé à l'écart du réseau de la santé et de maintenir le nouveau registre des armes à feu fait aussi grincer des dents ici et là. Mais c'est probablement le refus du gouvernement de redistribuer la totalité des trop-perçus d'Hydro-Québec qui a choqué le plus l'électorat. Au salon de l'auto, ils étaient plusieurs à l'avoir avalé de travers. « Message compris », dit-on dans l'entourage du premier ministre, à moins d'une semaine du dépôt du premier budget. Difficile de la manquer, la grande roue dans le vieux port de Montréal était aussi à la une du Devoir aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'aurait pas tout à fait été édifiée avec tous les permis requis. Québec poursuit les promoteurs de la grande roue, un texte de Jean-François Nadeau. La grande roue, érigée en 2017 dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, est poursuivie pour s'être installée au beau milieu du parc du bassin Bonsecours sans obtenir les autorisations préalables de l'État en matière de préservation du patrimoine. Le parc où le manège panoramique est érigé figure au répertoire du patrimoine culturel, notamment parce qu'il comporte des vestiges archéologiques et qu'il a obtenu, lors de son inauguration en 1992, des mentions qui soulignaient la qualité de son aménagement. Or, les promoteurs de la Grande Roue sont accusés de ne pas en avoir tenu compte en vertu des exigences du gouvernement. Isabelle Porter, toujours elle, s'est demandé où en était le lab école. L'arrivée de la coalition Avenir Québec n'a pas eu d'impact pour l'instant sur le projet Lab École créé en 2017 par les libéraux avec le concours de Ricardo Larrivée, Pierre Lavoie et Pierre Thibault. L'organisme espère même élargir son mandat vers les écoles secondaires. Tout à fait, dit la directrice du Lab École, Natacha Jean, qui assure que le changement de gouvernement n'a pas eu d'impact sur la trajectoire du projet. On fait une courte pause et on se retrouve de l'autre côté avec le Journal de Montréal.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Trees, hot air for a cool breeze.
Pink Floyd, Wish You Were Here.
Merci beaucoup, Mathieu Tessier, donc, qui assure la mise en onde et les choix musicaux de cette émission. Beaucoup de choses dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Je commence en vous parlant du parcours d'une jeune fille et d'une ressource de la DPJ dont elle a pu faire usage. C'est assez triste, mais de savoir qu'il y a des solutions, ça aide. Elisabeth Laplante, J.E. J'étais naïve, je voulais juste de l'amour. J'étais rendu trop loin, je me détruisais, j'étais à terre, je me faisais battre tous les jours. C'est ainsi que Camille, un nom fictif, âgée d'à peine 16 ans, décrit ce qui a été pour elle le déclic, le moment où elle a décidé de quitter le milieu de la prostitution. Cette jeune fille, dont le témoignage a été présenté à l'émission JE jeudi soir, a eu son premier contact avec le milieu de la prostitution alors qu'elle n'avait que 13 ans. Transférée à au moins 4 reprises en unité d'encadrement intensif du directeur de la protection de la jeunesse, elle a enfin fait une croix sur ce milieu qui l'a tant fait souffrir. Au début, j'étais naïve, je voulais juste de l'amour, mais à la fin, je savais qu'ils s'en foutaient de moi. Ils veulent juste de l'argent, que tu leur ramènes des affaires. Ils veulent juste que tu leur ramènes d'autres filles parce que toi, tu ne vas plus servir à rien bientôt. Avant d'arriver à l'unité d'encadrement intensif de la DPJ, ces adolescentes ont déjà vécu des événements particulièrement difficiles. Fugue à répétition, consommation de drogue, idées suicidaires, violence, prostitution. Voilà leur triste réalité. La majorité de ces jeunes filles âgées de 12 à 17 ans ont eu un contact avec le milieu de la prostitution. Elles sont encadrées parce qu'elles peuvent être une menace pour elles-mêmes et pour les autres. Les éducatrices tentent de déprogrammer ce pourquoi ces adolescentes ont été manipulées par des proxénètes. Quand elles arrivent, elles vont tenir des propos dans lesquels on entend les pimps derrière, explique Marie-Maude Vien, éducatrice à l'unité. Donc nous, on va venir créer l'ambivalence, on va venir semer le doute. À l'unité, dont l'emplacement doit demeurer confidentiel, nous rencontrons Sophie, non fictif, qui s'est retrouvée en encadrement intensif à plus d'une reprise depuis l'âge de 15 ans. « Quand t'es en fugue, t'es vraiment vulnérable, puis ça paraît », explique la jeune fille aujourd'hui âgée de 17 ans. « T'as tellement de besoins de base à combler que n'importe quelle personne qui va aller devant toi et qui va t'offrir « Hey, tu viens-tu avec moi? » Tu vas accepter tout de suite, c'est sûr. » C'est lors d'une fugue qu'elle raconte avoir été recrutée et amenée à se prostituer. Elle a ensuite fugué à répétition. La personne t'héberge, elle te donne de la drogue, elle fait plein de choses pour toi, donc tu te dis « je ne peux rien lui redonner », donc tu fais la seule chose que tu penses pouvoir lui redonner. Une fois que tu as eu des relations sexuelles, il pourrait te dire « la prochaine fois, tu pourras en avoir et tu pourras avoir de l'argent et tu pourras payer de la drogue ». C'est immense la manipulation qu'ils vont utiliser et toutes leurs techniques pour amadouer, souligne Cindy Venn, également éducatrice à l'unité. Ce sont toutes des histoires d'horreur qui vont à la limite de notre imagination. Accident de travail chez Hydro-Québec. Pascal Dugas-Bourdon rapporte plusieurs employés ont été exposés à une substance cancérigène. Des dizaines d'employés d'Hydro-Québec ont été exposés à une substance cancérigène, le beryllium, en raison d'une opération de décontamination inadéquate dans un ancien laboratoire de l'Institut de recherche en électricité, l'IREC, à Varennes. Certains employés ont été exposés à des concentrations 20 fois supérieures aux normes québécoises dans les conduits d'aération de la salle en question, convertis en entrepôt depuis 2007. D'autres endroits, comme des surfaces de travail, dépassent légèrement le maximum indiqué. L'agence QMI a appris qu'une enquête interne a été lancée après que la Société d'État a reçu les résultats de ces tests. Le fait d'entrer en contact avec des concentrations élevées de beryllium peut entraîner des risques graves pour la santé. Hydro-Québec confirme avoir rencontré plus d'une centaine de ses employés en janvier dernier pour les informer de la situation. La procédure s'est limitée aux employés actifs, les retraités n'ayant pas été informés pour l'instant. Politique pour Manon Massé, le tramway à Québec, c'est un projet national, rien de moins. C'est d'ailleurs le titre de Geneviève Lajoie. Québec solidaire demande à François Legault de se tenir debout face à Ottawa pour le financement du tramway à Québec, un projet national. Le torchon brûle entre les libéraux de Justin Trudeau et le gouvernement Legault sur la manière de boucler le financement du projet cher au maire Régis Labeaume. Le gouvernement du Québec doit contribuer pour 1,8 milliard au projet et le gouvernement fédéral pour 1,2, mais la provenance de l'argent est source de querelles. Québec a besoin de ce projet structurant. Il y a une urgence nationale. C'est un projet national que de donner un projet structurant à Québec. Et pour ça, il ne faut pas que rien nous permette d'attendre. Mais comme on le dit en bon chinois, les factures qui traînent entre Québec et Ottawa, il y en a plus qu'une. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière, mais ça ne doit pas empêcher ce projet-là de pouvoir commencer tel que prévu cet été, a soutenu aujourd'hui la chef parlementaire solidaire Manon Massé. Selon le député Vincent Marissal, Québec ne doit pas se faire dicter ses priorités par le fédéral en transport collectif et en matière de lutte contre les changements climatiques. Alors, à Dorval et à Toronto, à l'heure où je vous parle, il y a des pilotes qui cherchent des 30 sous parce que ça prend beaucoup de parcomètres pour le 737 stationné au sol. Ça cause de sérieux problèmes à Air Canada. Le journal de Montréal en parle puisque les 24 appareils d'Air Canada, qui sont des 737 MAX, transportaient de 9 000 à 12 000 passagers par jour. Alors, je voulais juste imaginer la quantité de récriminations, de déplacements, d'annulations de gens qui avaient des vacances planifiées. Tout ça, il y en a pour des semaines au service à la clientèle à Air Canada. Ce que je serais tenté d'appeler une fausse mauvaise nouvelle, c'est Jean-François Desbiens qui titre son texte « Les cours d'eau seront surveillés de près ce week-end en Estrie ». Oui. La situation des cours d'eau en Estrie est stable et le niveau des rivières est normal. La situation pourrait toutefois changer avec le réchauffement des températures et les précipitations de pluie à venir au cours de la journée de vendredi. La neige au sol représente environ 200 mm de pluie. Sa fonte graduelle n'inquiète pas les autorités civiles. Ce qui fait craindre et pourrait devenir problématique, c'est l'accumulation de glace et la présence d'embâcles. La situation n'a rien de dramatique, mais mérite qu'on y porte une attention particulière. À Aquaticook, des travaux ont été effectués sur la rivière afin d'affaiblir le couvert de glace qui peut atteindre jusqu'à 2 pieds d'épaisseur. Les puisards ont été nettoyés et l'embouchure du ruisseau Pratt a été libérée de tout obstacle pouvant empêcher l'écoulement du surplus d'eau. Pour l'instant, les autorités municipales disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Loin que je n'ai rien trouvé.
matin s'est levé. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Demain, je ne peindrai plus mes nuits. Il est trop tard pour comprendre. Il fait trop noir pour attendre.
Dans la catégorie des chansons qu'on en prendrait pendant au moins 15-20 minutes, c'était « Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie, harmonium ».
Je vous parlais tout à l'heure d'une fausse mauvaise nouvelle, en fait les craintes relatives à la fonte rapide. Je vais maintenant vous faire une fausse bonne nouvelle, tiens. La saison des sucres est lancée, ça nous vient de la Voix de l'Est de Jérôme Savary. Ça décolle a priori aujourd'hui, jeudi, lance Sébastien Côté, qui est à la tête de l'érablière Côté Fils. Comme lui, les acériculteurs de la région trépignaient d'impatience, car la saison 2019 a débuté beaucoup plus tard que l'année dernière. Tubulure ou chaudière, même combat. Cette année, peu importe le moyen de récolte, les producteurs démarrent la saison en même temps, le mois de février n'ayant laissé aucune place pour un redout ou presque, même les plus gros joueurs n'ont pu compter sur d'éventuelles coulées précoces. Il y a une seule coulée en février où on a récolté et ça n'a pas coulé beaucoup. On a pelleté pas mal plus, confirme M. Côté, qui est l'un des plus gros joueurs de la région avec ses 64 000 entailles réparties sur sa terre de 540 acres. Jeudi, il s'affairait encore à dégeler plusieurs calvettes afin de prévenir les accumulations d'eau sur sa terre. Résultat, les acériculteurs ne sont pas en avance. On est pas mal en retard. Il faut que ça se passe maintenant, indique celui qui avait déjà récolté le tiers de sa production totale de 2018 fin février, soit 250 000 livres de sirop. À Brigham, Michel Thibodeau, propriétaire depuis 22 ans de l'érablière du domaine de l'artisan, vit la même réalité. Ces 1100 chaudières devraient se remplir jeudi pour la première fois de la saison. On va commencer à bouillir demain ou samedi, anticipe-t-il à l'autre bout du fil. « On se déplace à Sherbrooke et dans les pages de la Tribune où Claude Pratt intitule son texte « Le chien Brownie fait du bien aux jeunes du Chac ». L'arrivée d'un animal de compagnie dans un foyer change la vie des occupants. Chez l'organisme Mon Chac, les effets bénéfiques se font grandement sentir. La résidence offrant des appartements sous supervision pour les jeunes de 18 à 35 ans vivant avec une problématique de santé mentale vient d'accueillir un beau grand labrador brun âgé de 10 ans. L'énergique Brownie est un outil de zoothérapie à l'intention des pensionnaires de Montchac de la rue Collège à Lennoxville. La démarche d'adoption supervisée avec la collaboration de la Société protectrice des animaux de l'Estrie, la SPA, dans le but de réaliser un jumelage entre le chien et les pensionnaires, a expliqué José Parent, fondatrice et directrice générale. Il s'agit d'une démarche qui a nécessité un travail conjoint visant l'adoption définitive d'un chien, et ce même si ce type de projet est exceptionnel pour la SPA de l'Estrie. L'attente a été de courte durée. Nous annonçons officiellement l'arrivée de Brownie. Il a été adopté et vit désormais en permanence à Montchac. Un partenariat gagnant-gagnant et encore gagnant entre Montchac, la SPA de l'Estrie et Brownie, dit-elle. L'autre jour, une pensionnaire est venue me voir dans mon bureau. Elle n'allait pas bien, elle s'est mise à pleurer. Brownie dormait, mais quand il a entendu ses pleurs, il s'est levé et il est venu la réconforter pour la calmer. Notre chien fait déjà du bien. Montchac offre des appartements sous supervision pour les jeunes 18 à 35 ans vivant avec une problématique de santé mentale, des services ainsi qu'un milieu de vie bilingue. On y compte 18 logements. On parle en début d'émission de ce drame en Nouvelle-Zélande. Moi, à chaque fois que ça arrive, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur quel est l'impact des réseaux sociaux sur la radicalisation. Est-ce que le fait de trouver plein de gens comme ça qui se mettent à vomir leur haine à gauche et à droite, ça a un effet stimulant et ça permet le passage à l'acte? Patrick Duquette du Droit, lui, se pose la question de l'air malsain des médias sociaux. Moi aussi, il m'arrive de désespérer de l'espèce humaine en lisant les bêtises et les commentaires orduriers qui circulent sur les médias sociaux. Comment des gens généralement civilisés peuvent-ils devenir ouvertement racistes ou sexistes dès lors qu'ils s'expriment dans le monde virtuel? Qu'est-ce qui fait que des gens s'autorisent à mettre de côté le respect, la compassion, l'empathie, ces choses qui font de nous des êtres humains et non des bêtes sauvages, dès lors qu'ils se retrouvent seuls devant un clavier? Je l'ignore et ça me dépasse. Apparemment, je ne suis pas le seul. Ce désarroi, Jérôme Gagnon, un jeune professionnel dans la trentaine de Nicolette, l'exprime avec éloquence dans une lettre publiée par plusieurs journaux de notre groupe de presse, dont Le Droit. Depuis son adolescence, ce jeune homme se fait un devoir de bien s'informer en lisant au moins un journal et un bulletin de nouvelles par jour. C'est sa manière de contribuer sainement au débat public. Aujourd'hui, il admet qu'il a parfois le goût de concéder la victoire à l'air malsain qui flotterait sur le Québec. Il n'en peut plus du déferlement de sottises, de mépris, voire de haine qui s'exprime sur les médias sociaux. Que ce soit à la suite de la démission de Catherine Fournier du PQ ou de l'incendie qui a coûté la vie à 7 enfants syriens à Halifax, le Québec que j'aime profondément est-il capable d'autant de méchanceté? Il semble que oui, ça me fait peur, confie-t-il dans cette lettre. Lui qui songeait à se présenter un jour en politique remet en question son projet. Votre haine, votre mépris des institutions, votre rapidité à pianoter le clavier pour composer le texte le plus blessant possible ralentissent les allées plus ardents et valeureux citoyens, regrette-t-il. Il a même intitulé sa lettre « Comment ça va ?» une question à laquelle il répond lui-même à la fin « Clairement pas ». Je lisais son texte et je repensais au déferlement de commentaires racistes qui ont suivi les récentes déclarations de la mairesse adjointe de Gatineau, Nathalie Lemieux, sur les musulmans. Vous savez, quand elle a dit « ces gens-là ne s'intègrent pas et qu'on a raison d'en avoir peur », moi aussi, en lisant les commentaires haineux et racistes qui ont suivi la déclaration de Mme Lemieux sur les médias sociaux, j'ai découvert un Québec dont j'ignorais l'existence, un Québec raciste, violent, intolérant, à mille lieues de la société ouverte, accueillante, empathique que je croyais connaître. Tout comme Jérôme Gagnon, j'en ai perdu le sommeil, jusqu'à ce que je tombe sur un texte signé par le président de la maison de sondage CROP dans l'actualité du mois de février. D'après Alain Juguère, il ne faut pas sauter aux conclusions. Les médias sociaux ne sont pas le reflet de notre société. En fait, seulement 3 personnes sur 10 publient des commentaires, opinions ou contenus de toute nature sur les médias sociaux. Le reste, donc l'immense majorité, se contente de regarder. Ceux qui gueulent sur les médias sociaux sont ceux qui ont besoin d'être reconnus et d'être admirés. Ceux-là sont visiblement prêts à tout, y compris à proférer les pires saletés pour attirer l'attention. Alors voilà, Jérôme, je suis d'accord avec toi. Ils gueulent fort, ils polluent le débat public, mais il faut apprendre à leur donner leur juste poids, qui est moins important qu'on le pense de prime abord. Pense-y avant de leur concéder la victoire. Une nouvelle prise dans le soleil, les caméras du G7 vont continuer de filmer les places publiques de Québec. Lesquelles, comment, pourquoi, ça on ne sait pas trop, on ne sait pas exactement combien il y a de caméras, on ne sait pas exactement non plus où elles sont situées, la police de Québec refusant de le préciser, mais ce sont des caméras qui ont été installées à l'occasion du G7 qui se tenait donc à Charlevoix et à Québec. Et la police entend bien les garder en fonction, même s'il n'y a aucun agent qui est en faction devant les écrans à temps plein. Ceci dit, ça pose quand même des questions en matière de protection de la vie privée. Un autre texte en provenance de la Voix de l'Est, l'urgence de Granby est encore sous pression. Pénurie d'effectifs, détresse du personnel et débordement à répétition. Voici 3 des principaux ingrédients du cocktail explosif qui se répète encore une fois à l'urgence de l'hôpital de Granby, au point où le CIUS de l'Estrie demande à la population de se tourner, si possible, vers une autre option. Au cours des 3 derniers jours, le taux d'achalandage sur civière à l'urgence du CHG oscillait autour de 170%. Jeudi à 11h34, civière était comblée sur une capacité de 20. Du nombre, 11 patients étaient à l'urgence depuis 24 heures ou plus. Au même moment, 18 personnes étaient en attente d'hospitalisation. Des ambulances ont également été redirigées vers d'autres hôpitaux pour donner un peu d'oxygène aux membres de l'équipe du CHG, notamment vers l'hôpital Brougham-Missisquoi-Perkins. Une infirmière qui a préféré que l'on taise son identité qualifie la pression sur le personnel à l'urgence du CHG d'insoutenable. « C'est infernal », clame-t-elle. « Ça fait des semaines que c'est comme ça. Toutes les civières sont occupées en observation. Les médecins n'ont même plus de salle pour voir les patients. » Selon notre source, le moral des troupes est au plus bas. Ça fait des jours consécutifs qu'on ne peut pas aller dîner. On travaille comme des fous. Quand tu rentres le matin, tu ne sais jamais à quelle heure tu vas sortir. Puis tu vois tes collègues tomber l'un après l'autre. C'est vraiment tough. En plus, on a toujours le sentiment que notre travail n'est pas accompli. Courte pause à nouveau et on aborde les communautés francophones hors Québec.
Thank you. planterai une forêt.
Emily Clapper, c'était la chanson « Désert blanc ».
On le sait, les débuts du gouvernement Ford en Ontario n'avaient rien pour plaire à sa communauté franco-ontarienne. Eh bien, on va essayer à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario de se faire entendre et on a retenu les services d'un crieur pour ça. C'est l'Express de Toronto qui nous en parle. Le 20 mars prochain, Journée internationale de la francophonie, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario va organiser à Queen's Park sa première criée du manifeste franco-ontarien par le crieur public Daniel Richer. Le manifeste franco-ontarien est une œuvre collective produite et écrite par un grand nombre d'artistes, auteurs et poètes, indique William Burton, qui l'a conçu avec Ethel Côté et Mireille Groslot. L'initiative veut donner suite aux manifestations du 1er décembre contre les reculs infligés aux franco-ontariens par le gouvernement provincial. Le document est illustré par Mark Keelan Bishop et est destiné à être lu haut et fort. Ce manifeste représente nos plus grandes aspirations. Il raconte nos combats, nos levées de boucliers, nos refus de disparaître. Le comédien, Daniel Richer d'Ottawa, est embauché depuis plusieurs années pour annoncer ou inaugurer divers festivals et rassemblements. Il fera sa criée de la version bilingue du manifeste sur les marches de l'Assemblée législative de l'Ontario à 9h30 le matin. C'est déjà très ardu de faire survivre des journaux au Québec où on est majoritairement francophone, alors imaginez ce que ça peut être dans les provinces atlantiques. Le Moniteur acadien nous en parle. Le virage, quel virage? Voilà la question qui lançait les échanges d'une rencontre de 4 médias écrits francophones en Atlantique en novembre dernier à Halifax. Au fil des discussions, le virage de la collaboration a pris le haut du pavé sur les changements effectués pour foncer dans le virage numérique. Un texte collaboratif du Moniteur acadien, de la Voix acadienne, du Courrier de la Nouvelle-Écosse et du Gaboteur. Le temps d'une fin de semaine, les directions de 4 médias écrits francophones en Atlantique se sont donné un temps de formation et de réflexion commune animé par Sylvain Lafrance, directeur du pôle Média HEC Montréal et ancien vice-président des services français de Radio-Canada. Autour de la table, Gilles Haché, propriétaire et éditeur du Moniteur acadien au Nouveau-Brunswick, Marcia Inman, directrice générale de la Voix acadienne à l'Île-du-Prince-Édouard, Jeannine Saulnier, présidente du conseil d'administration du Courrier de la Nouvelle-Écosse et Francis Robichaud, directeur général de ce journal. Et finalement, Nathalie Brunet, présidente du conseil d'administration du Gaboteur. Les échanges d'informations autour de la baisse des revenus publicitaires fédéraux des dernières années ont été brefs. Inutile de tourner très longuement le fer dans la plaie d'une perte de revenus allant jusqu'à 75 % de placements d'annonces par le gouvernement du Canada et ses agences depuis 2000. L'intérêt de cette rencontre entre pairs était surtout d'en savoir plus sur les stratégies mises en place pour continuer à exister. Pour assurer leur survie, les médias présents ont adopté plusieurs mesures, parfois les mêmes, parfois non. La minceur des ressources humaines est un trait commun de ces médias et la bête noire de leur direction. Même si les mesures adoptées pour compenser la baisse des revenus publicitaires sont différentes selon chaque média, il y a unanimité autour du constat qu'il est impossible de couper encore plus les dépenses. Il faut augmenter et diversifier les revenus. Les quatre médias réunis à Halifax ont en commun de tirer encore la majorité de leurs revenus de leur version papier, aussi bien au chapitre de la publicité que des abonnements. Bien que les revenus de publicité et d'abonnement tirés du numérique soient en hausse, ils arrivent à peine à compenser les dépenses liées à cette forme de diffusion, notamment les frais de serveur, de logiciels, mais surtout les ressources humaines nécessaires à la mise en ligne des contenus. En Alberta, Lucas Pileri nous apprend qu'il y a des symboles qui font la francophonie albertaine. La communauté vient de se parer d'un nouvel emblème officiel, la ceinture fléchée patrimoniale inspirée du drapeau franco-albertain. Elle a été officiellement reconnue par l'ACFA provinciale le 26 février dernier. Mais à quoi servent ces symboles au juste? Deux chefs de file donnent leur avis. La reconnaissance d'un nouvel emblème ne pouvait pas mieux tomber qu'en ce mois de la francophonie albertaine. L'idée provient en fait du Bureau de la visibilité de Calgary en partenariat avec la Société pour le patrimoine francophone de Calgary. À l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération en 2017, le design de la ceinture avait été approuvé en collaboration avec la Société historique de l'Alberta, l'ACFA, et le Conseil de développement économique, le CDEA. Autre que le drapeau, il n'y avait rien, plaide Suzanne de Courville, Nicole, présidente et fondatrice du Bureau de visibilité. L'idée était de fournir un outil de visibilité pour la francophonie albertaine qu'on peut porter tout au long de l'année. Qu'elle soit arborée autour de la taille ou du cou ou encore comme banderole, foulard ou cravate, la ceinture fléchée constitue ainsi un nouvel outil de promotion et d'appartenance. Territoire du Nord-Ouest où l'Aquilon nous parle d'une consultation sur les services en français. Une consultation était organisée par la Fédération franco-ténoise le 13 mars dernier pour le compte du Secrétariat des Affaires francophones qui veut organiser une campagne de promotion de ses services en français apparemment sous-utilisés. Cette première soirée sera suivie d'un sondage en ligne et d'une rencontre avec les employés du GTNO parlant français. Les participants ont unanimement salué le fonctionnement du bureau d'immatriculation et de permis de conduire d'Yellowknife avec son système permettant de choisir la langue dans laquelle on veut être servi. « C'est bien identifié, c'est facile », a dit le président de la FFT, Jean-François Pitre. « Ça devrait être partout comme ça, en justice, en santé, etc. » Mais plusieurs personnes ont dit utiliser l'anglais de manière générale dans les bureaux gouvernementaux, de peur de trop retarder le service pour les autres usagers. Des recommandations seront remises au SAF d'ici le 31 mars. Courte pause musicale et on se retrouve de l'autre côté avec la culture.
J'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Cœur il est rempli, et toi, je te trouve tellement jolie, je t'aime.
I love you.
Si tu veux un rendez-vous, mais moi, je serai doux, 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 forever.
Pour toujours.
Viens dans mes bras, ma petite. Je veux pas que cet amour se gaspille. No, oh, j'ai plein d'amour à donner.
Plein plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Un homme généreux, je te donnerai tout ce que tu veux. Je t'aime.
I love you.
Ensemble, on pourrait s'amuser. Automne, hiver, printemps, été, forever.
Pour toujours.
Tu me dis que l'amour n'existe pas. Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Wow, wow, j'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour.
Damien Robitaille, plein d'amour.
C'est ces jours-ci que sort en France le dernier film de Xavier Dolan, en fait la version française de son film qui va s'intituler en français « Ma vie avec John F. Donovan ». La critique qui est généralement acquise aux réalisateurs québécois, cette fois-ci semble nettement plus partagée. Divisée, la presse française étale depuis mardi avec sa verve habituelle des réticences et des louanges quant à Ma vie avec John F. Donovan, le nouveau film de Xavier Dolan qui a pris l'affiche mercredi dans l'Hexagone. Le Figaro titre « Une étoile est morte ». À Télérama, on s'exclame « Maman, j'ai perdu mon Dolan ». Le premier long-métrage en anglais de Dolan ne trouve néanmoins pas en France le même réconfort critique auquel était habitué depuis ses débuts le cinéaste québécois. Un film boiteux, souffrant des hésitations et des doutes de son créateur, tranche notamment le Figaro. RFI, guère plus impressionné, en rajoute en parlant d'un film qui déçoit, avec son scénario bancal et son lyrisme balourd, loin de ce à quoi le cinéaste canadien nous avait habitués. Plusieurs des critiques recensées par le journal, dont celle des Cahiers du cinéma et du journal Le Monde, accordent la note de passage au film qui met en vedette Kit Harington, Susan Sarandon, Natalie Portman et Kathy Bates. Pour sa part première, sort l'encensoir. Le premier film de Dolan en langue anglaise est l'un de ses meilleurs et à coup sûr le plus ambitieux et le plus maîtrisé, s'enflamme la publication. À tout prendre, ça ne pourra pas être pire que la réception critique du film au Festival du film de Toronto, alors que la critique américaine, sur laquelle le réalisateur comptait énormément, avait éreinté le film. L'humour comme outil de réinsertion, un texte de Chantal Demers. Joanne Boucher a passé plus de 3 ans en prison pour avoir cultivé du pot. C'est là qu'elle a eu l'inspiration pour créer son personnage de Thérèse. J'observais les autres détenus, je les entendais parler au téléphone avec leur mari, leur chum. Ces appels souvent émotifs étaient sans doute très frustrants pour elle. Parfois elle criait, tapait le récepteur sur la tablette du téléphone. Ces femmes devenaient alors de vraies caricatures. Joanne a aussi tenu avec une co-détenue un journal quotidien dans lequel elle décrivait ce qu'elle vivait tout en prenant soin d'inclure une pensée positive. Cette femme créative a même écrit un dictionnaire du vocabulaire utilisé en prison par les détenus et le personnel. Mais c'est Thérèse, une femme qu'elle décrit affectueusement comme innocente, qui l'a aidée à se refaire une place dans la société. Après l'avoir créé en prison, Joanne a été invitée à présenter son numéro au cabaret de la Seconde Chance, un spectacle réunissant notamment des personnes de talent ayant eu des démêlés avec la justice, puis récemment au Bordel Comedy Club. Elle, Thérèse, n'est pas très scolarisée, un peu innocente, sans aucun passé criminel, mais un peu laxiste du côté des valeurs. C'est aussi un peu mon histoire, l'appât du gain, on ferme les yeux, on ne veut pas voir. Dans le numéro, c'est la difficulté à joindre les deux bouts qui a amené Thérèse à accepter d'entretenir la culture de marijuana de son fils. Au téléphone avec son amie Georgette, elle compare avec dérision la vie en prison à celle en CHSLD. Il avait pensé à tout. La toilette était juste à côté du lit. C'est pratique. À mon âge, on peut se casser une hanche. Il voulait notre bien-être. T'aurais dû voir la sécurité, là. Tout était barré. Je me suis jamais senti aussi en sécurité que ça. Le personnage de Thérèse évoque aussi les difficultés pour les ex-détenus à trouver un emploi, une réalité vécue par Joanne Boucher. En sortant de transition, bien que j'avais 45 ans d'expérience de serveuse puis comme gérante et que j'avais aussi été à l'Université de Sherbrooke en gestion hôtelière, je ne trouvais pas d'emploi. Même si ce n'est pas un métier facile, il faut quand même pas des lettres d'or pour l'exercer. Mais j'ai appris en sortant de prison que tous les commerces franchisés ont accès à notre casier judiciaire. J'avais vite trouvé un emploi dans une épicerie à grande surface, mais après 3 jours, ils m'ont mise à la porte. Après une succession de petits boulots mal payés, une employeuse a finalement donné une chance à Joanne en restauration et elle y travaille encore aujourd'hui. Que je vous parle de cette menace à la liberté théâtrale. Il y a 2 fonctionnaires de Québec qui sont venus donner une amende à une troupe théâtrale puisqu'on fumait sur scène. Une autre amende, mais pour une fausse cigarette, c'est Yves Leclerc qui en parle. Après le trident et le premier acte, c'est au tour de l'abordé de recevoir une amende pour une fausse cigarette qui a été fumée sur scène. L'institution théâtrale située dans le quartier Saint-Roch a l'intention de contester cette amende de 687 $. L'abordé a reçu le 8 février, à la suite d'une plainte, la visite de 2 inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une cigarette et des joints de sauge, qui ne contenaient pas de tabac ou de nicotine, ont été fumés par la comédienne Pascale Renaud-Hébert dans la pièce Rotterdam, présentée entre le 15 janvier et le 9 février. Un message d'avertissement avait été émis avant le début de la pièce pour préciser que de fausses cigarettes allaient être fumées pendant la représentation. « Nous avons l'intention de contester cette amende. Ça n'a pas de bon sens et on ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas derrière ce geste de volonté d'encourager les produits du tabac. C'est quelque chose qu'on fait parce que ça fait partie du personnage ou parce que c'est la représentation d'une époque. Ce n'est pas parce qu'une pièce de théâtre montre de l'adultère qu'elle en fait la promotion », a fait remarquer Michel Nadeau, directeur artistique à l'abordé lors d'un entretien. Alors, est-ce qu'on pourra enlever quelques batteries à quelques personnes, s'il vous plaît? J'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, c'est aussi une journée de grève étudiante. On se rappellera qu'il y a une étudiante en Suède qui a parti un mouvement. Les vendredis, les écoliers font la grève pour la planète. Ça pose une question intéressante, mais chose certaine, il y a quand même 148 000 étudiants au Québec aujourd'hui qui débrayent à la suite de votes qui ont pris ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce qu'il vaut mieux apprendre un participe passé et perdre la planète ou à faire quelque chose qui changera probablement pas beaucoup? José Blanchette a écrit une chronique sur le sujet. L'école de la rue. Je ne sais pas si on les écoutera, mais ils vont se faire entendre aujourd'hui, dans la rue, en bougeant leurs fesses et en brandissant des pancartes avec la ferveur de leurs 17 ans, en hurlant « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Où est qu'il le futur? À nous le futur. » À l'instar de millions d'autres dans 105 pays qui rejoindront le mouvement Climate Strike, si j'étais leur prof d'histoire, cela ferait partie du travail d'équipe pratique. Tu vas à la manif? T'as 100%. Tu y vas pas? Tu coules tout le monde. Il fut une époque pas si lointaine où l'on fréquentait l'école pour forger son avenir, se projeter loin devant, bâtir des cathédrales et prier pour qu'elles tiennent. Les plus dégourdis lisaient Castaneda et emboîtaient le pas à Kerouac. Les autres défrichaient Marx ou Lénine, Camus ou Beauvoir. En 2019, on suit l'exemple de la jeune Suédoise Greta Thunberg sur YouTube, qui est en nomination pour le prix Nobel de la paix, et on prend la rue comme on prend son envol. Il est de ces rendez-vous avec le futur qui n'attendent qu'un geste au présent, et le leur tient compte de la nécessité de secouer les pouvoirs en place et de réveiller le bon peuple tiré au flanc et confortablement assoupi. Ça ne fait que commencer, et la révolte émerge d'où elle est souvent venue. Des jeunes, de plus de 140 000 étudiants en grève aujourd'hui au Québec, selon La Planète s'invite à l'université, pour souligner le manque d'ambition climatique, appuyé par des scientifiques, des parents, d'un ras-le-bol identifiable qui dégèle avec le pergélisol et les crottes de chien. J'étais avec les élèves du secondaire au centre-ville la semaine dernière, réunis autour du Vendredi pour le futur. Froid mordant, vent scintillant, et malgré tout, habillés pour vapoter à la récré, sans plus. Ils sont plus chauds que le climat. Des parents fournissaient le café, tandis que les plus hardis jouaient de la batterie et de la basse, les doigts gourds, mais avec l'énergie du désespoir de cow-boy fringant. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester, de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira qu'on n'était finalement que des étoiles filantes. Leur figure de proue s'appelle Sarah Montpetit, 17 ans, à la tête de Pour le futur Montréal, un mouvement de désobéissance apolitique fondé parce que ses amis ne veulent pas mettre d'enfants au monde sur cette planète appelée à vivre une sixième extinction. Son amie, Maya Spiek, cinquième secondaire aussi, me parle d'être née au mauvais moment et de payer pour les actes des générations passées. On ne leur en veut pas, ils ne savaient pas, mais maintenant, on sait. Il y a aussi Albert Lalonde, 16 ans, l'aîné de 4 enfants, un futur Gabriel Nadeau-Dubois. Avec un panache tranquille, il sort des phrases comme « La racine de nos difficultés atteint des zones du comportement humain qui sont acquises. » Il voudrait peut-être adopter des enfants si tout se passe mal comme prévu. Pour l'instant, il garde les deux jumeaux tannants de sa fratrie, 5 ans, et il trouve l'expérience un peu dissuasive. Non, ce ne sont pas des privilégiés qui cherchent à faire l'école buissonnière, ce sont des enfants du bitume qui ont poussé entre les cracks du trottoir de l'histoire. J'ai plutôt devant moi nos enfants qui se lèvent pour qu'on prenne leur avenir au sérieux, des ados cultivés, informés, organisés, combatifs et inquiets. Le seul pouvoir qu'on a, c'est d'aller ou non à l'école. La majorité des gens qui votent sont des baby-boomers. Ils sont dans la culture du plaisir, leur retraite, leur voyage, leur commande sur Amazon, souligne Maya. Le prof d'éduc qui leur a donné des dossards, celui d'histoire qui les a aidés à se structurer, le prof d'anglais qui corrige les communiqués, le prof d'art qui fournit la peinture pour les banderoles, les profs pour la planète les appuient massivement. Ces ados espèrent que le système d'éducation intégrera une sensibilisation à l'écologie, qu'on les préparera véritablement pour l'avenir, car l'avenir se prépare peut-être sans eux. Printemps durable? Au micro, Mia Bertium y va de son discours bien senti. Elle parle de nous, ceux qui votent, dirigent, décident, influencent. Ils se ferment les yeux, ils se bouchent les oreilles devant une crise planétaire. Mais s'il s'agissait d'une crise économique, ça ferait longtemps que les plans seraient mis en action. Mais non, ce n'est pas le dollar qui est menacé, c'est seulement mon avenir et celui de tous les autres, de l'humanité et de milliers d'espèces. C'est un droit que l'on tente de nous arracher et de vendre. Ça fait des années qu'on se répète qu'il faut penser à nos enfants, les protéger. Ma génération n'a plus le privilège de répéter ces mots puisqu'elle commence à considérer l'option d'arrêter de procréer afin d'éviter de créer d'autres victimes. Les générations suivantes n'auront peut-être même pas le privilège d'exister. Ils sont bien conscients qu'ils doivent déranger sans s'aliéner la population, éveiller sans menacer le statu quo et subir des retenues pour leur dissidence scolaire. Ils ne veulent plus prendre l'avion, ont opté pour le végétarisme dans certains cas. Albert énonce clairement Calmement, les solutions sont là, on les connaît. On fait de la sensibilisation, mais nos revendications s'adressent au gouvernement pour qu'ils utilisent leur levier du pouvoir afin d'agir sur la société. Maya surenchérit. Nous n'avons pas la crédibilité et pas beaucoup de pouvoir. J'ai lu que l'on consacre seulement 0,2% du budget du gouvernement à l'environnement. Devant le complexe Guy Favreau, j'accoste Majdi, 18 ans, déjà au cégep. Les changements climatiques, c'est une occasion de changement de système. On approche du point de non-retour. Didier, 17 ans, croit que nous en sommes déjà à la croisée des chemins. C'est une transition qui se fait. Léa, une rouquine toute souriante, cheveux au vent, me souligne qu'on ne gèle pas quand on a le cœur chaud. Elle se souvient du printemps érable 2012. J'étais en cinquième année. Un étudiant est passé devant moi et a crié « On fait ça pour vous ». Oui, ils font ça pour nous. Et celui qui m'a le plus fait rire, moi, c'est celui qui avait écrit sur sa pancarte « La calotte, les calottes sont cuites ». Quelques temps pour vous parler d'un usager chanceux du téléphone cellulaire qui descendait de son véhicule au moment où il a vu un archer qui le mettait en joue, carrément. Alors, au lieu de se cacher comme j'aurais fait et comme Mathieu derrière la vitre aurait fait aussi, il a décidé de le filmer. Bien lui en a pris puisque c'est le téléphone qui a intercepté la flèche. Là, il a d'ailleurs été traversé, il y a un bon pouce de la flèche qui a traversé le téléphone. Voyez-vous, c'est quand même dangereux, mais bon, c'est un moyen de communication comme un autre. Alors, nous vous avons présenté le quotidien des quotidiens, l'édition du 15 mars. François Brodeur au micro avec vous depuis une heure et demie. On remercie aussi Mathieu Tessier à la mise en onde et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.